Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, malgré la grippe, merci Jacques. Benoît Feit au micro. Il y a près de 4 ans, jour pour jour, le 20 février 2011, un début de soulèvement populaire secouait le Maroc au moment même où les révolutions dites du printemps arabe faisaient tomber les dictatures en Tunisie, en Libye et en Égypte. Mais contrairement à ces pays, le mouvement du 20 février au Maroc n'avait pas vocation à obtenir un changement radical de régime. Les protestataires cherchaient plutôt à faire pression sur le roi Mohamed VI pour obtenir plus de démocratie et moins de corruption. 4 ans après ces événements, qu'ont réellement obtenu les Marocains? C'est en somme la question principale que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Driss Xikès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du Centre d'études sociales, économiques et managériales de l'Institut des hautes études de management à Rabat, où vous dirigez également la collection des presses de l'Université citoyenne, une collection qui vient de publier un ouvrage dont vous êtes un des co-auteurs et qui s'intitule « Le métier d'intellectuel, dialogue avec 15 penseur du Maroc ». Daniel Menskart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez jusqu'en 2012 le délégué Wallonie-Bruxelles international au Maroc, une expérience qui vous a notamment inspiré la rédaction d'un ouvrage intitulé « Maroc, 4 champs de bataille pour la démocratie », un ouvrage paru aux éditions de Présence et Action culturelle. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Driss Xikès, pour entrer peut-être directement dans le sujet, pouvez-vous tout d'abord nous rappeler comment est né ce mouvement du 20 février et qui il rassemblait?
Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y a bien entendu ce qui s'est passé en Tunisie, qui est un prélude, qui est un déclencheur. Un déclencheur et un accélérateur d'un besoin qui existait au Maroc déjà, parce que au Maroc, c'est comme si 10 ans plus tôt, il y avait une promesse de réforme qui n'a jamais été tenue.
Promesse qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Mohamed VI.
Disons, voilà. Donc, une promesse de réforme qui s'est affaissée suite aux attentats de 2003, le retour du tout sécuritaire et la priorité économique sur la construction démocratique. Et bien entendu, les rentiers du système qui prenaient de plus en plus de place. Donc, les gens qui s'organisaient au fur et à mesure sur Internet, dans le réel aussi, ont commencé à s'agréger pour se donner rendez-vous pour ce mouvement du 20 février. Là-dedans, vous retrouviez aussi bien des gens qui étaient dans l'Adl Ihsan, ça veut dire du côté des islamistes non reconnus par le pouvoir, des gens qui sont du PSU, ça veut dire lié à un parti d'extrême gauche non représenté au Parlement. Vous retrouvez là-dedans des jeunes qui sont dans aucune structure, des gens qui sont liés à ATTAC, Maroc, des gens qui sont liés à l'AMDH, l'Association marocaine des droits de l'homme, etc., etc. Donc, aussi bien des gens encartés que des gens non encartés, des gens qui ont ras-le-bol intuitivement comme ça, et d'autres qui sont dans la construction d'un projet. Donc, tout ce beau monde s'est donné rendez-vous pour le 20 février pour dire basta, pour dire personne n'a dit dégage. L'idée était essentiellement qu'on demandait plus de dignité, qu'on demandait plus d'écoute, qu'on demandait à ce que les gens qui détiennent la rente économique et politique soient destitués et qu'on revoie le système de représentation politique qui ne les représente pas. Donc tout ça était posé un peu comme ça pêle-mêle sur la place publique. Il n'y avait pas forcément ce slogan clair que vous aviez dans d'autres pays qui pouvait être rassembleur au même degré.
Alors, 4 ans plus tard, qu'ont obtenu les protestataires, les animateurs du mouvement du 20 février? Ont-ils obtenu quelque chose tout d'abord?
Alors, c'est complexe. Le Maroc est une vieille monarchie qui a l'habitude de récupérer habilement la demande sociale et même de la pervertir au mieux. Donc il y a eu de manière très habile, la monarchie a tout de suite mis la réforme constitutionnelle en milieu de route, hein, pour que ce qui est dans la rue aille dans les salons de la négociation et qu'on sorte de la rue.
Un phénomène qu'on connaît en Belgique sous le terme de l'encommissionnement par ailleurs, donc vous n'êtes pas seul.
Voilà, donc ça c'était le premier acte fait. La constitution qui en est née est une constitution assez intéressante, mais moi sincèrement je dis toujours que ce n'est pas dans des sociétés comme la nôtre où l'interpersonnel ou le côté informel des relations politiques est beaucoup plus important encore que l'institutionnel, ce ne sont pas que les lois qui font le changement, c'est les hommes et les femmes d'abord. Et ce qui s'est passé par ailleurs, c'est que au moment où on lance cette réforme constitutionnelle, c'est tout simplement la répression des manifestants. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont en prison. Deux, c'est la corruption de tous ceux qui peuvent soutenir ces mouvements. Trois, c'est le retrait des forces islamistes parce qu'elles ont vu que leur intérêt n'était plus d'être dans la rue et qu'elles préfèrent passer par l'espace syndical et l'espace de représentation politique pour peser plus dans la place, etc., etc. Donc, si vous voulez, ça fait pchit. Il en reste aujourd'hui quelques mouvements qui, d'un point de vue culturel, sont toujours présents, dans la mesure où la conscience de la nécessité de lecture, de débat public, etc., est présent. Deux, il y a un fond de vigilance citoyenne qui est resté. La preuve, l'affaire de Daniel Galvan, ce pédophile gracié par une grossière erreur des cercles du pouvoir et qui a fait qu'un noyau du 20 février a fait descendre les gens dans la rue, au point que le roi lui-même s'est senti obligé de surcommuniquer sur sa bonne foi. Si vous voulez, pour résumer, je dirais que le Maroc aujourd'hui ressemble à la marmite la plus tiède de la région. Il y a tellement de marmites sur le feu dans la région que le Maroc peut se permettre de régresser parce qu'il semble avoir la stabilité.
Daniel Menskart, dans votre ouvrage, vous parlez de quatre champs de bataille pour la démocratie au Maroc. Est-ce que votre analyse rejoint celle qui a été développée notamment par les animateurs du mouvement du 20 février que Driss Sikès vient d'évoquer?
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment... Driss a parlé de récupération. C'est assez fabuleux de constater la manière dont ça s'est opéré. Avec un simulacre de débat à propos de la réforme constitutionnelle, vous savez, tout ça s'est passé en un mois, deux mois maximum. Hein? Suivi après d'élections législatives dans la foulée, on ne peut pas imaginer chez nous qu'un débat sur une réforme constitutionnelle aille aussi vite et sans qu'il y ait de réelles possibilités pour ceux qui étaient opposés au texte proposé ou bien qui voulaient le réformer, faire d'autres propositions et qui s'inscrivait, je dirais, dans le processus, d'avoir accès véritablement à l'antenne, à une presse qui aurait reflété leurs opinions. Et donc il n'y a pas eu de débat démocratique à propos de cette réforme constitutionnelle. Et tout ça, je dirais, sur un fond, et c'est ça, moi, personnellement, qui me choque le plus par rapport au Maroc, sur un discours que l'on diffuse continuellement, qui est, mais vous savez, le peuple marocain, fondamentalement, il a besoin d'une monarchie forte. Et le peuple marocain, il est conservateur. Hein? Bon, voilà.
Et qui dit ça?
Le pouvoir, bien entendu, relayé, c'est ça qui m'inquiète souvent le plus, en Europe, par une certaine presse et par les milieux de pouvoir aussi en Europe.
C'est le même argument qu'on utilisait à l'époque pour Ben Ali.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est, si vous voulez, c'est un peu parce que c'est la marmite la plus tiède. Donc, ça rassure l'Europe en quelque sorte d'avoir là une zone où ça ne va pas exploser dès demain, si vous voulez. Et donc, on prend ça comme modèle en disant, vous voyez, le roi et son statut de commandeur des croyants, c'est un bon modèle pour que ça n'éclate pas et pour combattre l'islamisme, par exemple. Ce que je ne crois pas.
Et par ailleurs, lutter également contre l'immigration illégale, parce qu'on sait que Mohamed VI joue un rôle assez particulier dans tout le système
tout
Frontex.
Fait.
Donc
oui,
voilà, il y a plusieurs alliances qui peuvent se créer là-dessus.
Alors moi, je réponds toujours à ceux qui me disent « Le peuple, vous savez, il est conservateur et le peuple, il ne veut pas vos réformes démocratiques, liberté de pensée, tout ça. » Alors, je dis « Mais le peuple est conservateur, pourquoi ? » Parce qu'on a laissé un système, notamment d'éducation, dans l'état où il est. Où, évidemment, rien n'est fait pour que les jeunes, les enfants, les jeunes, puissent développer un esprit critique, etc.
Donc, justement, Daniel Melsert, quels sont justement précisément, en quelques mots, les quatre chantiers que vous avez identifiés, les quatre champs de bataille que vous avez identifiés ?
J'avais identifié, bon, il y en a plus que quatre, hein. Mais moi, je m'étais contenté, si vous voulez, d'aborder le problème des femmes, le problème de la culture, le problème de l'éducation et de ce qu'on pourrait appeler la constitution d'un état de droit, c'est-à-dire une législation qui reprendrait dans des textes protecteurs réformes que le roi, au début, par exemple, de son règne, avait annoncées, avait promis, avait laissé. Bon, mais sans que ça se traduise véritablement en texte et sans que ça percole dans les institutions, la justice, etc., et qui fait que le citoyen, illusionné à un certain moment par le discours royal sur les réformes, etc., se retrouve coincé, et notamment ce sont les principales victimes, les journalistes, les intellectuels, etc., qui n'ont pas de... Enfin, je veux dire, où il n'y a pas de clarté dans ce qui est permis de ce qui n'est pas permis. Et c'est volontaire, ça, parce que ça permet à tout moment de punir, de sanctionner, puisque vous ne connaissez pas quelle est véritablement la règle, puisqu'elle n'est pas définie. Hein.
Driscikes, Daniel Melsert disait il y a quelques instants qu'il y a ce discours qui sous-entend que le peuple marocain est fondamentalement conservateur. Est-ce que pour autant on peut en déduire que les intellectuels marocains sont fondamentalement progressistes ?
Ni l'un ni l'autre, mais je voudrais d'abord revenir très 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 brièvement sur cette a priori là que le peuple conservateur. Je souligne que c'est un pouvoir qui lui-même a une légitimité religieuse fondamentaliste, qui lui-même instaure une pensée unique distillée par le système d'éducation, par l'absence de lieux culturels, par l'absence de lieux de débat public structurants, par les médias publics qui sont cadenassés, où il n'y a pas de pluralité au niveau des contenus et des prises de parole. Donc toute cette panoplie d'outils de gouvernance qui sont là, qui sont au service d'une pensée unique distillée par le haut. Donc après, on a beau jeu de dire le peuple est conservateur. D'abord, il ne l'est pas. Il y a ce que j'appelle toujours une sorte de sécularisation muette. Il y a des gens qui sont dans la pratique d'une modernité, d'une liberté ou d'une pluralité, mais il n'y a ni les mots pour le conceptualiser, ni des porte-voix pour lui donner un sens et lui donner de l'écho. Donc ça, c'est ça qui m'amène à la question des intellectuels. Ça veut dire que aujourd'hui les intellectuels au Maroc, il y a en même temps des gens qui prennent position, que des gens qui se taisent, que des gens qui se compromettent dans des positions de cooptation avec le pouvoir. Il y a de tout. Hein. Forcément, dans un système comme celui-ci, vous avez tout cela. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces personnes qui sont susceptibles de produire un discours qui a du sens, qui peut donner des repères à des jeunes qui aujourd'hui cherchent à revendiquer un certain nombre de choses, n'ont pas de relais dans les médias, n'ont pas de relais dans les espaces de médiation sociale. Il y a comme si on vivait dans des îlots déconnectés. Hein. Donc ces intellectuels sont dans une sorte de solitude, parce que leur parole, elle est quasiment inaudible.
Et c'est un peu ça qui vous a inspiré cet ouvrage, c'était la volonté d'avoir un dialogue plus large, plus largement partagé avec les Marocains en général?
Oui, parce qu'en fait, avec 2011, on avait cette parole spontanée, mais où sont les intellectuels? Et en fait, c'est important. On n'a pas fait avec Fadma Aitmous, ma collègue et amie, on n'a pas fait ce travail pour présenter, par exemple, les intellectuels qui ont pris des positions. On voulait plutôt montrer ceux qui ont accumulé un certain nombre de choses, mais qui ont accumulé quasiment dans la discrétion et sans que ça se sache complètement, sans que ça on lui donne écho dans la société. Donc on est allé fouiner, on a lu tous leurs travaux pour aller discuter avec eux, pour faire un travail de passeur. On s'est mis en position de passeur pour faire un travail de transmission pour ces jeunes générations qui cherchent à s'accrocher à une parole, peut-être un concept, peut-être une grille de lecture, etc. Donc on a offert cela et on est très content parce que, avec justement, vous parliez des presses de l'Université citoyenne, la collection que je dirige, notre vocation n'est pas de faire des livres pour faire joli ni pour les poser dans les étagères, on les fait pour créer le débat public. Donc ce sont des livres qui concernent des questions clés dans la société marocaine. Alors ce livre, il traite beaucoup de points, on reviendra dessus si vous le voulez, mais le plus important, c'est de créer le débat public, de créer l'intérêt à comprendre un certain nombre de points et de pousser le plus loin possible. Et il faut savoir aussi que, si je dis sur plusieurs années, ces gens ont accumulé, ils ont accumulé dans une forme de résilience, parce que l'université marocaine, il ne faut pas l'oublier, a été décapitée, la philosophie a été fermée, les sciences sociales ont été combattues, au nom de l'islam de l'État, au nom de la nécessité de créer une pensée conservatrice par l'université, par les études islamiques. Donc qu'on ne vienne pas me parler aujourd'hui comme si c'était un état de fait, c'est une situation construite par les gouvernants et avec la complicité des élites dans notre société, où la liberté et la pluralité ne sont pas suffisamment ancrées dans les consciences.
Je vous propose de faire une petite pause musicale à présent et on reviendra sur toute une série d'autres sujets encore à aborder juste après. Un morceau qui introduit d'ailleurs le deuxième volet de cette émission. On vous laisse avec Georges Brassens, l'espace de quelques instants.
Non, certes, elle n'est pas bâtie.
Non, certes, elle n'est pas bâtie.
Sur du sable, sa dynastie.
Sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Il peut dormir ce souverain.
Il peut dormir ce souverain
sur ses deux oreilles sereines.
Sur ses deux oreilles sereines. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Je tue il est le nouveau île.
Je tue il est le nouveau île.
Le monde le suit docile.
Tout le monde le suit docile. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Il est possible au demeurant.
Il est possible au demeurant
qu'on déloge le chat d'Iran.
Qu'on déloge le chat d'Iran. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Qu'un jour on dise c'est fini.
Qu'un jour on dise c'est fini.
Au
petit roi de Jordanie.
Ô petit roi de Jordanie, mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Qu'en Abyssinie on récuse,
qu'en Abyssinie on récuse,
le roi des rois, le bon Négus,
le roi des rois, le bon Négus, mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Que sur un air de fandango,
que sur un air de fandango,
on congédie le vieux Franco,
on congédie le vieux Franco, mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Que la couronne d'Angleterre,
que la couronne d'Angleterre,
ce soir demain roule par terre,
ce soir demain roule par terre, mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Que ça s'est vu dans le passé,
que ça s'est vu dans le passé,
Marianne soit renversée,
Marianne soit renversée, mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Daniel Menskart, on vient d'entendre Georges Brassens qui nous parlait de ce roi qui est physiquement un roi qu'on retrouve sans doute dans tous les pays. Mais revenons peut-être plus précisément au réel roi qui règne sur le Maroc, Mohamed VI. On avait pour habitude de dire il y a quelques années qu'il existait trois tabous incontournables en termes de liberté d'expression au Maroc. L'un concernait le roi, l'autre la religion et enfin le Sahara occidental. Est-ce que ces tabous sont plus facilement abordables aujourd'hui ou pas ?
Ah non, je ne crois pas. Je crois que même on est... Driss parlait tout à l'heure d'une régression. Eh bien, je crois qu'on régresse à ce sujet-là, et notamment sur la personne du roi, et qui mêle d'ailleurs le pouvoir profane, je dirais, et le pouvoir religieux.
Est-ce qu'on peut considérer que le Maroc est une monarchie de droit divin ?
Ah, alors, bon, c'est... On pourrait... Non, pas dans le sens de Louis XIV, etc. Non. Mais un pouvoir qui s'appuie effectivement sur le religieux, qui se donne une légitimité complémentaire par le religieux, qui fait d'ailleurs que je trouve que ceux qui croient que c'est une manière de lutter contre l'islamisme se trompent, parce que d'une certaine manière... Que disent les fondamentalistes ? C'est qu'il n'y a pas de pouvoir laïque, que le pouvoir, enfin la manière d'exercer le pouvoir dans un pays doit se calquer sur le discours religieux. Et quand un peuple voit que son souverain est lui-même représentant du pouvoir religieux, ben ça n'aide pas les démocrates et les laïcs. Pour combattre ce type de gouvernance. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète, alors je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, c'est qu'il y a même des rapprochements entre le pouvoir aujourd'hui et certains anciens prédicateurs qui sont à l'origine des attentats de Casablanca et qui maintenant font une reconversion par rapport au palais, mais pas par rapport à ce qu'ils prônait, c'est-à-dire qu'il continue à avoir un discours extrêmement agressif et conservateur sur toutes les questions éthiques, sur la liberté d'expression, etc. Et je pense que le pouvoir se compromet avec eux pour assassiner, enfin pour éliminer ou affaiblir le parti, le PJD qui était au pouvoir, une vieille tactique utilisée par le pouvoir qui consiste à amener des partis politiques au pouvoir pour les décrédibiliser complètement. Voilà, donc je pense que non, ces tabous existent toujours et il est sont exclus de tout débat possible. Et donc ceux qui discutent de ça, ceux qui écrivent là-dessus, les journalistes qui osent écrire là-dessus, prennent des risques et peuvent être comme Anouzla, récemment, risque la prison et en tout cas risque la censure.
La censure, justement, Driss Xykes, Omar Brooksy, cet auteur qui vient de publier un livre, Mohamed VI, Derrière les masques, dans lequel il dénonce la concentration du pouvoir dans les mains du roi, est interdit au Maroc. Ça nous dit quoi précisément sur la liberté d'expression concernant également les trois tabous dont nous venons de parler?
Le Maroc est un pays dans lesquels il y a plusieurs formes de censure. Il n'y a plus de censure préalable. Quoique, aujourd'hui, sur les médias électroniques, même la loi qui se prépare peut mettre en place des formes de censure préalable par les différentes formes d'autorisation nécessaires, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une censure sociale très forte parce que le Maroc aujourd'hui compte 55 000 mosquées et 300 bibliothèques et deux chaînes de propagande publique. Donc je ne vois pas comment la pluralité de la pensée existe dans mon pays pour que les gens ne soient pas des alliés de la censure politique. Deuxième niveau de censure. Il y a une censure économique. Nous avons un système économique libéral contrôlé, dans lequel l'essentiel des enjeux économiques sont gérés par le haut. Les petits acteurs économiques n'ont pas suffisamment d'autonomie pour pouvoir porter des projets sociétaux. Et donc, aujourd'hui, il est très facile de faire du boycott économique de structures médiatiques Quatre, nous avons la censure par les acteurs de la chaîne de production. Et c'est là où intervient l'interdiction d'un livre. Ce n'est pas le ministère qui va décréter qu'il est interdit. C'est le seul importateur de livres de France agréé qui a des marchés pour le livre scolaire dans le pays, qui se charge de ne pas importer le livre.
Pour éviter les ennuis.
Pour éviter les ennuis. Et de toute façon, et donc il n'est nulle part. Donc ce sont plusieurs formes de censure que nous voyons dans notre pays. Et bien entendu, la question clé, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les gens s'autocensurent. Et l'autocensure, elle vient d'où ? Elle vient du fait qu'on tient compte du fait qu'il va y avoir soit de la pression, soit de la répression, soit peut-être de la violence, ou tout simplement un risque de licenciement pour avoir abordé un sujet.
Driss Xykes, on retiendra en tout cas une chose parmi d'autres, c'est que l'autocensure, vous ne la pratiquez pas personnellement. Merci d'être venu dans ce studio, vous exprimer aussi librement. Merci à vous également, Daniel Mensker, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous deux et merci évidemment à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis une fois de plus. On vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même onde. D'ici là, bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.